Bonjour à tous et bienvenue au Corporate Chat Podcast, version française. Votre animateur pour aujourd'hui est moi-même, Mathis Grandchamp, étudiant en finance à l'Université McGill. Notre invité pour aujourd'hui est Monique Leroux. Monique Leroux est compagnon de l'Ordre du Temple de la renommée de l'entreprise canadienne, membre du Temple de la renommée de l'industrie des valeurs mobilières et membre du Temple de la renommée comptable du Canada. Elle œuvre aujourd'hui au sein de plusieurs conseils d'administration, dont celui de Michelin, Bell, Couche-Tard et Lallement. Actuellement expert conseil principal pour Ténéo, Madame Leroux a connu une carrière remarquable comme présidente du conseil et chef de la direction du mouvement Desjardins au Canada. Elle a notamment été conseillère principale chez Fiera Capital, présidente du conseil d'investissement Québec et associée en outils chez EY. Ses contributions extraordinaires dans le monde des affaires et au niveau communautaire ont été reconnues par des doctorats honorifiques et des distinctions provenant des 10 universités canadiennes. Sans plus attendre, voici ma conversation avec Monique Leroux. Bonjour Monique, merci d'être ici sur le podcast aujourd'hui.
Un grand plaisir d'être avec vous, Mathis, et de pouvoir échanger sur différents sujets.
Donc, je voudrais commencer par souligner que vous venez d'être nominé pour avoir reçu le doctorat honorifique de la Faculté de gestion des hôtels. Donc, toutes mes félicitations.
Ben, c'est un grand privilège pour, en fait, plusieurs raisons. La première, c'est que McGill, c'est quand même la première université, d'une certaine manière, au Canada. Ça a été aussi, du point de vue de la faculté, ça fait plus de 100 ans que ça existe, cette faculté de management qui a quand même eu toute une évolution. Puis McGill a été quand même relativement pionnière en Amérique du Nord pour l'éducation supérieure aux femmes. Donc, on retourne à peu près en 1884 de mémoire. Donc, il y a plusieurs volets qui me rendent, au fond, très émue, très touchée de recevoir cet honneur de la part de McGill.
Merci, super. Donc, si on revient un peu au départ de votre carrière, vous avez initialement poursuivi des études en piano au Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Pouvez-vous nous parler de vos ambitions, de vos intérêts lorsque vous étiez plus jeune?
Oui. Puis d'ailleurs, je vais vous raconter tantôt une autre petite histoire, une coïncidence incroyable qui me retourne en fait à mes études en musique. Donc, comme beaucoup d'enfants, on est très inspirés par les parents qui nous entourent et mes parents, mon père en particulier, adorait vraiment la musique. Il était passionné de cela. Il n'avait pas eu l'occasion de faire des études. Et donc, rapidement, on souhaitait que je fasse du piano. Donc, j'ai commencé, en fait, assez jeune. Et là, j'ai fait différentes choses, différents professeurs, les concours de musique du Canada. Tout ça m'a amené, mais je viens d'un milieu quand même très modeste, et tout ça m'a amené à faire les concours d'entrée au Conservatoire de musique à Montréal. Et j'ai eu le privilège d'avoir une bourse du gouvernement du Québec. Et donc, mes études, en fait, à partir de l'âge d'environ 12-13 ans, ont été prises en charge par le gouvernement. Et donc, j'allais essentiellement au conservatoire avec un peu d'études secondaires que je faisais à ce moment-là à Boucherville. Et donc, j'étais une étudiante assez studieuse, assez bien réussi parce que j'avais un certain talent, mais c'était peut-être plus le travail puis une certaine capacité de gérer mon stress qui m'ont amené à bien progresser. J'avais plus de talent dans les matières dites théoriques de la musique. Tout ce qui était théorie, construction musicale, histoire musicale, j'avais une facilité naturelle à ce niveau-là. Et sur le plan de l'interprétation, ben, j'ai réussi quand même à faire des choses intéressantes, mais et c'est là que je fais ma petite histoire, c'est qu'il y a une autre personne assez célèbre, en fait, qui va recevoir aussi un doctorat honorifique de McGill cette semaine, et en lien avec la faculté de musique Schulich. Cette personne-là s'appelle Louis Lortie. Et donc, Louis Lortie, qui avait peut-être un an ou deux ans plus jeune que moi, et moi, on a fait, quand on avait à peu près 14-15 ans, les concours de musique du Canada et nous étions des fiers et heureux compétiteurs. Et lui jouait plus Mozart. Moi, je me rappelle d'une finale où j'ai joué Ravel, entre autres le concerto en sol majeur de Ravel pour le premier mouvement, qui est tout à fait magnifique. Et là, lors d'un événement, j'ai pu observer Louis et je me suis dit que Louis aurait tout le talent et tout, je dirais, l'engagement et la concentration pour faire une grande carrière, mais que moi, j'étais plus intéressée par les personnes, par l'organisation des concours, par tout ce qui touchait finalement, appelons ça la dimension de la gestion et de l'évolution des concours de musique du Canada, que d'être moi-même uniquement, en fait, concurrente du concours. Et puis en plus, j'avais un certain talent, mais j'étais pas totalement certaine de vouloir étudier, travailler 8 heures par jour le piano pour arriver, en fait, éventuellement à cette reconnaissance internationale. Alors, les choses ont fait que je vais féliciter Louis cette semaine pour une carrière absolument extraordinaire en piano et en musique. C'est un grand artiste. Et moi, de cette réflexion et de mes observations, et il le sait d'ailleurs, de mes observations de Louis, j'en suis venue à la conclusion, quand j'avais à peu près 16-17 ans, que c'était mieux pour moi de considérer d'autres choses et de pouvoir me repositionner, ce qui n'était pas facile, sur d'autres études, un autre milieu et d'autres possibilités. Et quand je regarde ça en rétrospective, ben, je me dis que je pense que lui a pris la bonne décision. Et moi, j'ai pris aussi la bonne décision. Et
Donc,
voilà
c'est un
pour
peu.
le parcours en musique.
Donc, c'est un peu cette réalisation-là qui vous a fait un peu réaliser que vous alliez changer votre orientation pour votre carrière. Pourquoi le milieu des affaires?
Parce que d'abord, plus spécifiquement dans le milieu des affaires, c'est tout le volet financier et comptable qui m'apparaissait être au cœur d'un très grand nombre de décisions d'affaires et d'un très grand nombre de décisions économiques et sociétales. Et je me disais à ce moment-là que pour moi, qui voulais au fond avoir une contribution qui n'était pas totalement claire, là. Quand j'avais 18-19 ans, ce n'était pas totalement clair ce que je voulais accomplir. Il me semblait que maîtriser la finance, maîtriser toutes les dimensions de la communication financière par des études, par exemple, en comptabilité, ce que j'ai fait, m'apparaissait une très, très bonne façon d'avoir ce passeport vers, au fond, une contribution plus large dans le monde des affaires. Et c'est donc ça qui m'a, en fait, attirée en me disant que ça me permettait. J'ai beaucoup considéré aussi un autre parcours, par exemple en génie, pour éventuellement aller faire de l'administration, mais pour un ensemble de circonstances, c'était beaucoup plus direct pour moi d'y aller directement en administration avec des études comme CPA. Et puis, évidemment, le choix d'un grand cabinet comptable pour lequel, je suis devenue en fait en 88 une des premières femmes associées au Canada. Et ça m'a donné par la suite, encore une fois, toutes sortes d'ouvertures et de réseaux qui m'ont permis d'accomplir beaucoup de choses.
Puis une fois que vous avez eu l'obtention de votre CA et CMA au temps, à ce temps-là, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours professionnel qui s'en est ensuivi?
Oui, j'ai joint à l'époque Clarkson Gordon, qui est devenu EY, donc grande firme internationale avec programme de formation, programme d'échange. J'ai fait des mandats au Canada, j'ai fait des mandats aux États-Unis, j'ai fait des mandats en Europe, j'ai fait de la formation. Donc, ça a été un parcours extrêmement riche en termes d'expérience puis en termes de formation complémentaire. J'ai eu aussi le bonheur d'être je dirais accompagné et encouragé par plusieurs mentors. Donc, il y avait des gens d'expérience et je me rappelle de ces gens-là, M. Caron, M. Camiran et bien d'autres aussi, qui, à l'époque, c'est sûr, juste pour se remettre en contexte, là, quand on est dans fin des années 80, La réalité, c'est que des femmes dans le domaine comptable et financier, là, c'était moins de 5 % hein, en termes de gradués, puis en termes de gens qui se retrouvaient comme tels dans les cabinets. Donc, on était rapidement identifiés et assez visibles, merci. Et donc, il y a deux côtés à l'affaire. Quand on a une position un peu minoritaire, on peut se sentir un peu seul, ou au contraire, on peut chercher l'opportunité de pouvoir rayonner un petit peu plus ce que moi j'ai fait. Et donc, avec l'aide de ses mentors, particulièrement Marcel Caron, j'ai pu, par exemple, devenir chargée de cours à HEC. Ça a été pour moi, en complémentaire, une très bonne façon de continuer d'apprendre, de pouvoir partager le savoir, de pouvoir aussi me donner une posture, d'expliquer en fait des affaires compliquées. Donc, j'ai quand même enseigné la fiscalité, audit et comptabilité pendant plusieurs années. Hein, je sais, ça a été une super expérience. Par la suite, j'ai été en fait très, très engagée avec l'Ordre des CPA du Québec et aussi l'Ordre national canadien où j'ai piloté toutes sortes de comités, encore une fois pour établir un peu mon réseau, pour apprendre, pour être en contact avec des gens. Et j'ai été la première femme, en fait, élue présidente de l'Ordre des CPA du Québec, ce qui, en fait, m'a beaucoup aidée à apprendre comment diriger un conseil, comment travailler avec les gens, comment aussi inspirer les gens, animer une organisation. Alors, ça a été pour moi, je dirais, une magnifique porte d'entrée au monde des affaires parce que par la suite, ça m'a donné une certaine visibilité. Je suis intervenue beaucoup dans ce rôle-là, dans tout le, je dirais, le contexte du rétablissement des finances publiques, à la fois canadiennes et québécoises, qui étaient largement sous pression. Donc là, on se retrouve dans l'horizon des années 90. Et donc, j'ai eu l'occasion, en fait, de contribuer des réflexions avec tout un comité de sages qui m'accompagnait, pour lequel j'étais allée chercher ce que je pensais être le meilleur de la profession comptable, autant au Québec qu'au Canada, puis de mettre ces personnes qui m'accompagnaient à contribution pour aider nos gouvernements de l'époque à prendre des décisions sur la gestion des finances publiques. Je pense qu'on a eu un certain impact. Par la suite, naturellement, ça m'a amené à avoir un développement d'affaires assez réussi puisque j'avais différentes entreprises qui, au fond, m'avaient vu dans différentes circonstances. Alors, ça a comme créé, en fait, une espèce de roue qui tourne positive. Ça m'a amené jusqu'à la Banque Royale où je me suis retrouvée la première femme, en fait, aussi responsable des finances de la banque comme première vice-présidente finance de la Banque Royale sur le plan canadien, donc en 95. Ça aussi, ça a été toute une expérience. Et par la suite, j'ai eu une expérience opérationnelle pour prendre en charge toutes les activités au Québec. Première femme aussi. Il y en a eu d'autres. La bonne nouvelle, c'est que celles qui m'ont suivie par la suite ont aussi été des femmes avec qui j'ai gardé d'ailleurs de très, très bons contacts et de bonnes relations. Et que j'ai le bonheur de revoir. Donc, voilà, il y a eu tout un effet d'entraînement sur ce que j'appellerais être la première souvent à faire la piste de ce qu'ils font, puis d'en avoir d'autres par la suite qui peuvent continuer de glisser et d'avancer. Alors, voilà, donc toute une évolution du leadership des femmes dans le monde des affaires au Québec en particulier et au Canada.
Vous avez mentionné à plusieurs reprises être une pionnière un peu au niveau des femmes, obtenir des hauts postes de direction. Est-ce que vous pouvez nous partager certains défis auxquels vous avez été confrontés justement, puis un peu ce que ça signifie pour vous avez mentionné un peu?
Bien, je pense que le défi le plus important, mais ça a été pour moi aussi le plus grand privilège et la fonction la plus importante que j'ai occupée, ça a été, donc si j'avance rapidement dans l'affaire, donc après la Banque Royale, j'ai joint le Mouvement des Jardins Encore une fois, comme première femme dans l'équipe de direction du mouvement, donc on est en 2001, pour prendre en charge toutes les activités non caisse, non bancaire du mouvement des jardins, donc toutes les activités d'assurance, de gestion d'actifs, de fonds mutuels. Et là, ça a été effectivement un grand défi sur lequel je vais revenir. Et ensuite, d'avoir eu ce privilège d'être la première femme chef des finances du mouvement en 2004 et par la suite à la présidence du mouvement en 2008 pour deux mandats jusqu'à la fin de 2016. Alors, ça aussi, c'était des premières. Et je dirais que le premier élément à partager, c'est d'abord avec soi-même. C'est d'avoir la conviction qu'on est capable de gérer la pression et le risque de se lancer, de mettre son nom et de dire oui, malgré le fait qu'il y a un environnement qui n'est pas tout à fait mon réseau, mon environnement, je suis en mesure de pouvoir avoir le courage, l'ambition et aussi l'audace de dire « je vais mettre mon nom sur la liste et je vais voir à apporter le meilleur de moi-même et tant mieux si je suis capable d'avoir un impact positif puis un leadership inspirant. » Et donc, je dirais, ça, c'est le premier élément, hein, c'est la conviction d'avoir assez confiance en soi-même puis d'aller chercher des gens autour. Donc, j'ai eu le bonheur d'avoir à chacun de ces moments-là des gens, autant sur le plan familial que professionnel, qui m'ont aidé à faire le saut. C'est un peu comme plonger finalement dans une piscine d'un tremplin. Le tremplin, à un moment donné, il est bas. Après ça, on commence à le faire monter, puis monter et monter. Puis là, à un moment donné, ça nous prend des gens qui nous entourent pour nous donner cette espèce d'accompagnement à la fois professionnel et psychologique pour plonger. Une fois qu'on est, qu'on a plongé, bien là, c'est une question aussi de savoir s'entourer, de savoir s'entourer d'une équipe. Parce que plus on avance dans les responsabilités qu'on a, plus on se rend compte que les dimensions de la stratégie sont importantes. Donc, d'avoir une vision, d'avoir des convictions à propos de ce qu'on va faire est un sujet important, mais d'avoir la capacité d'amener autour de soi une équipe qui peut nous compléter, qui dans certains cas même peut être meilleure que nous sur certains sujets. Et d'avoir tout ce beau monde-là qui travaille ensemble pour accomplir la vision ou le projet commun qu'on s'est donné, tout est là. Et d'une certaine manière, je dirais que oui, j'ai eu quelques embûches parce que je n'ai pas toujours été, puis c'est pas juste moi, hein, c'est toujours le cas, lorsqu'il y arrive des situations où on recherche un nouveau PDG, lorsqu'on recherche une nouvelle personne pour prendre en charge un projet, un dossier ou une organisation, ça se peut qu'on ne soit pas le seul candidat ou la seule candidate. Et donc, oui, ça peut être un peu tendu. Oui, ça peut être un peu exigeant, mais je pense qu'après ça, surtout si les candidats ou les candidates sont de l'interne et que vous arrivez de l'externe, vous devez rapidement trouver une façon de pouvoir aller chercher leur adhésion, d'aller chercher au fond leur appui. Et dans certains cas, ça peut vous amener aussi à prendre des décisions difficiles si jamais, pour toutes sortes de raisons, après avoir essayé, vous n'êtes pas en mesure d'aller chercher au fond cet appui. Parce qu'à la fin de la journée, ça prend une équipe diversifiée, mais soudée. Donc, cette idée d'avoir une équipe avec plusieurs perspectives pour faire en sorte que vous soyez en mesure de réaliser la vision de l'organisation. Alors, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à aller chercher des conseils. J'ai appris à devoir m'adapter. Donc, ce que je pensais n'était pas automatiquement la bonne réponse. J'ai appris à un moment donné aussi à écouter, à aller chercher des inputs pour pouvoir, au fond, m'inspirer, élargir mes perspectives. Ensuite de ça, j'ai appris à beaucoup mieux déléguer parce qu'au début, on a tendance à un moment donné, surtout quand on vient du monde professionnel, on a tendance à faire beaucoup de choses soi-même. Mais on se rend compte qu'à un moment donné, si on veut utiliser et aller chercher tout le pouvoir d'une équipe, ben, il faut plutôt s'entendre sur des objectifs et puis laisser l'équipe travailler, laisser les leaders qui nous entourent prendre leur place, quitte à être là pour les appuyer en cours de route. Et donc, voilà quelques-unes des leçons que j'ai apprises sur le plan humain, au-delà des questions plus techniques sur l'industrie des services financiers, la réglementation bancaire, le domaine manufacturier et d'autres choses sur lesquelles je travaille maintenant.
Oui, ça fait complètement du sens. Puis, vous l'avez mentionné, vous avez occupé plusieurs postes de direction, puis maintenant vous séjournez sur des conseils d'administration. Donc, comment a évolué votre équilibre entre le travail et votre vie personnelle au cours de votre carrière?
C'est une excellente question. J'ai eu la chance et j'ai toujours la chance d'être bien entourée sur le plan familial et aussi sur le plan amical. Donc, en quelque part, j'ai toujours été bien soutenue sur ce que j'appellerais le plan psychologique, qui me permettait, lorsque j'étais au travail, de pouvoir vraiment me concentrer à ce niveau-là. Première chose. Deuxième chose, j'ai toujours quand même, malgré des responsabilités assez importantes, réservé du temps pour moi-même, pour réfléchir, du temps pour voyager, du temps pour partager des bons moments en famille et avec les amis, de façon à un moment donné à se ressourcer. Typiquement, quand j'étais à la présidence du Mouvement des Jardins, les dimanches matins ou les samedis matins, dépendant, c'était souvent une longue marche ou une longue promenade en bicyclette, dépendant de la saison, ou en ski de fond, pour justement aller chercher du grand air, de l'oxygène et des idées. Et très souvent, c'est à ce moment-là que les choses se placent. Ça, c'est hyper important. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître une chose, que si on arrive à la direction d'une organisation ou d'une grande organisation, ou qu'on décide d'être entrepreneur, ou qu'on décide d'avoir un poste important dans une grande entreprise ou au niveau du gouvernement ou même d'une grande université, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre dans une boîte en disant ben, c'est 9 à 5. Ça ne se présente pas comme ça. Votre équipe, les circonstances, il peut y avoir des crises, il peut y avoir toutes sortes de choses qui vont faire que vous devez gérer cette incertitude et ce temps. Et ça m'amène à dire qu'au-delà d'avoir de l'ambition, de l'audace et de l'action, ce que je vais parler d'ailleurs demain aux étudiants diplômés, c'est qu'il faut accepter, en fait, que le travail est une grande partie à la base du succès. Donc, d'avoir de grandes idées, d'avoir de l'impact avec les personnes qui nous entourent, c'est super important. Mais le travail qu'on va y mettre, l'engagement que nous allons avoir, qui passe par le temps le travail en collaboration, ben, c'est un incontournable. Donc, il est vrai qu'avoir une bonne capacité de travail, avoir de l'énergie, puis ça, j'aimerais peut-être m'arrêter là-dessus, et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans cet équilibre personnel-professionnel, il faut trouver la façon, et ça dépend de chacune des personnes, il faut trouver la façon de se ressourcer et de se donner de l'énergie. Par exemple, moi, ce qui me donne énormément d'énergie, c'est les personnes. J'adore être avec les gens, ça me donne une énergie positive. Ça a toujours été comme ça, depuis que je suis toute jeune. D'autres personnes sont complètement différentes. Ils ont besoin d'avoir un moment tranquille pour soit faire du sport seul ou prendre un moment pour lire. Alors ça, il faut respecter ça. Il faut faire un peu d'introspection pour savoir comment positionner les choses. Pour être en mesure d'être un leader qui est heureux qui dégage une énergie positive. Si vous n'êtes pas heureuse, si vous êtes tendue, ça peut arriver d'être stressé parce que finalement, la vie en entreprise n'est pas toujours facile. Mais les gens qui vous entourent, si vous êtes le leader, quel que soit votre rôle, vont vous regarder. Et il va y avoir une espèce d'énergie, d'émotion communicative. Et donc là-dessus, si vous êtes dans une zone où vous êtes sur votre équilibre, malgré la pression, malgré le travail, ça va transpirer sur l'équipe et ça va donner aussi la capacité à l'équipe de faire beaucoup mieux que si vous y mettez une zone de stress et de pression indue. Alors ça, c'est l'autre chose aussi, il faut apprendre. Plus on prend des responsabilités, comment on gère la pression? Parce qu'on vit dans un monde où je crois que l'environnement, les parties prenantes, les médias sociaux, la technologie, l'intelligence artificielle maintenant, amènent une fébrilité dans un contexte géopolitique hyper volatile et parfois extrême. Donc, c'est vraiment pas simple quand je regarde ça aujourd'hui. Puis maintenant, je le fais comme membre de conseil. Comment on arrive à appuyer les équipes? Parce qu'il y a une grande différence entre membre de conseil et être un exécutif ou un CEO ou un PDG. C'est le PDG et son équipe de direction qui dirige, alors que nous, on est là vraiment beaucoup plus pour appuyer, soutenir et donner un encadrement de gouvernance. Donc, la posture n'est pas du tout la même. Mais force est de constater, quand je regarde les choses aujourd'hui, que les exigences autour des entreprises, quel que soit leur secteur, avec donc toutes ces dimensions à la fois technologiques, humaines, médias sociaux et géopolitiques, amènent une grande complexité, puis amènent les équipes de direction et les membres de conseil à essayer de bâtir, je ne dirais pas cette sérénité, mais cette espèce de confiance, de zone de confiance pour laquelle il nous faut faire tout ce que l'on peut pour regarder en avant, rester pertinent, bâtir sa résilience et en même temps se donner une vision de long terme avec l'espoir et la conviction que demain va être meilleur. Et donc, pour moi, quand je regarde les choses aujourd'hui, malgré le bruit qui nous entoure, parce qu'il y a énormément de bruit, il faut, et je pense que ça, c'est peut-être le message que je laisserai à tous nos leaders qui nous écoutent, nos leaders émergents et émergentes, un rôle tellement important à jouer pour faire en sorte que le monde de demain soit un monde qui continue de s'améliorer et qu'on soit capable de passer à travers une période très, très, très exigeante sur le plan personnel et psychologique, me semble-t-il.
Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre réponse. Puis, si on se tourne un peu vers le segment marché, vous avez été élue présidente du mouvement Desjardins en 2008 dans le contexte de la crise financière. Pouvez-vous nous partager des défis majeurs que vous avez rencontrés en prenant ce poste à un moment si critique?
Ah, ça a été probablement donc cette période de 2008 jusqu'à grosso modo la mi-2009, là, donc une grosse, grosse année, sinon un peu plus, le moment le plus intense que j'ai eu à vivre. Pourquoi? Parce que si on retourne en septembre 2008, il y avait eu des indications au préalable. Mais en septembre 2008, avec le fameux dossier de Lehman Brothers, il y a eu comme toute une série d'événements à travers le monde qui ont amené, sans rentrer dans tous les détails techniques, une forme de crise de liquidité interbancaire. Et ça déboule extrêmement rapidement. Et les autorités gouvernementales et bancaires, de façon générale, ça a pris un petit peu de temps avant qu'il y ait un alignement rapide qu'on a connu d'ailleurs lors de la COVID. Il y a eu naturellement à ce moment-là, peut-être suite à l'expérience de 2008, un alignement beaucoup plus rapide des grands décideurs à travers le monde. Mais en 2008, on a eu un peu cette hésitation pendant quelques semaines où ça devenait extrêmement imprévisible. Et je me rappelle que je regardais avec les équipes Donc, sans rentrer dans tous les détails, nous avions formé une équipe de crise au niveau du conseil, une équipe de crise en interne. Je regardais tous les jours, 7 jours sur 7, avec les équipes de trésorerie, nos positions de liquidité. Et je vous passe tous les détails que nous avons eu à gérer, d'autant plus que le mouvement des jardins, comme vous le savez, c'est une structure coopérative et donc son encadrement au terme législatif au Canada est un peu différent de l'encadrement bancaire en termes de lois qui sont à la base du fondement du mouvement des jardins. Et donc, nous avions des accords à l'époque avec la Banque du Canada, mais qui n'avaient jamais été complètement testés dans un contexte où les banques à l'époque avaient appelons ça une organisation centrale pour gérer, par exemple, toutes leurs hypothèques, alors qu'au niveau du mouvement des jardins, l'ensemble de nos hypothèques se retrouvait réparti à travers un ensemble de caisses, à travers le réseau. Donc, la mécanique opérationnelle avec la Banque du Canada pour, au fond, gérer notre portefeuille d'hypothèques en lien avec les liquidités d'urgence, ne se présentait pas du tout de la même manière. Et la chance que j'ai eue à ce moment-là, ça a été d'une part de pouvoir établir un contact immédiat avec Mark Carney, évidemment un homme fort connu qui a été par la suite à la Banque d'Angleterre et qui maintenant est très engagé sur tout le volet de la finance durable à travers le monde, qui était gouverneur de la Banque du Canada. Et il a rapidement compris les enjeux distinctifs et a rapidement établi avec son équipe un mode collaboratif avec nous. Ça, ça a été le premier élément. Le deuxième élément, autant avec la ministre des Finances de l'époque, Monique Jérôme Forget, et le ministre des Finances de l'époque, Jim Flaherty, malheureusement, qui est décédé, j'ai été en mesure d'établir un contact extrêmement rapide qui a permis, en fait, au mouvement des jardins de pouvoir travailler avec les autorités bancaires, réglementaires et à la fois gouvernementales pour qu'on soit capable d'établir notre feuille de route. Mais tout ça, ce n'était pas écrit dans un livre et tout ça, on ne l'avait jamais testé. L'autre élément très important, c'est que découlant des actions qu'on a prises à ce moment-là, il nous a fallu, à l'intérieur du mouvement des jardins, dans toute notre gouvernance générale, faire une très, très grande gestion de changement pour changer, comme d'autres institutions financières ont eu à le faire, notre mode de gestion de capital, notre mode de gestion de risque. Mais la grande différence, c'est qu'à l'époque, évidemment, une banque pouvait avoir à son conseil d'administration une quinzaine de personnes. Moi, la réalité du mouvement des jardins, j'avais plus de 3000 quelques dirigeants élus à travers l'ensemble des caisses qu'il fallait, en fait, avec qui il fallait communiquer, avec qui il fallait expliquer pour qu'on soit capable collectivement de faire les changements qui ont été requis. Et donc, ça m'a amené à ce moment-là avec les équipes. Et d'ailleurs, le président du mouvement des jardins, Guy Cormier, qui faisait partie aussi de ce groupe-là, à faire ce que j'appellerais des tournées de l'ensemble du réseau pour expliquer la crise financière, expliquer les nouvelles règles de capital, expliquer les changements de l'environnement pour qu'on soit capable de prendre des décisions qui ont été prises par la suite en 2009 et 2010. Par ailleurs, je dois avouer que j'avais quand même une vision de changement au niveau du mouvement des jardins. Je voulais m'assurer d'avoir un mouvement plus agile, un peu plus productif, plus tourné vers ses membres et ses clients et beaucoup plus présent à l'échelle canadienne. Et je dois avouer que 2009, avec tout ce qu'on avait vécu, toutes ces tournées et ces rencontres d'échange, ça m'a permis, cette crise-là, d'amener une gestion de changement qu'il m'aurait été probablement beaucoup plus difficile d'amener ou de proposer ou d'implanter sans qu'il y ait eu la crise. Donc, Mon message là-dessus, c'est que ça a été extrêmement difficile, mais je me suis organisée pour être extrêmement bien entourée à tout égard avec les équipes de direction, le conseil et d'autres intervenants externes. Et puis, par la suite, on s'est vraiment donné une vision du futur parce que pendant qu'on gérait la crise, j'avais mis en place des équipes de réflexion pour à peu près presque 200 personnes du réseau, plutôt des jeunes, qui pendant qu'on gérait la crise à tous les jours, regardaient l'avenir avec le ciel bleu. Je me disais que ce n'était pas possible qu'on soit en crise ad vitam aeternam. Donc, quand on va avoir terminé cette gestion de gérer la flotte des bateaux à travers une mer démontée avec beaucoup de vent et qu'on aurait le ciel bleu qui apparaîtrait, ben, ça serait quoi notre vision des choses? Et donc, ces 200 collaborateurs, collaboratrices, qui par la suite ont été plusieurs des leaders qui ont pris la relève, incidemment, ben, ils ont travaillé sur 10 chantiers et ils ont fait leurs recommandations quelque part à la mi-2009. Et le plus intéressant des choses, c'est que leurs recommandations, ça a été pour moi et pour le mouvement des jardins, l'essence de notre plan stratégique de mon premier mandat et de mon deuxième mandat. Et donc, si jamais il y a quelqu'un qui faisait partie de ce groupe-là, qui nous écoute, j'ai envie de leur dire un immense merci parce qu'au fond, c'est ça la force d'une équipe. Il y a des gens qui regardaient en avant pendant que d'autres géraient au fond le très court terme pour faire en sorte qu'on se donne une vision porteuse et qu'on soit capable de passer à travers ce qu'on a fait avec beaucoup de conviction.
Puis, avec le recul, comment est-ce que vous diriez que vous avez mesuré votre succès, votre impact durant vos mandats à Desjardins?
C'est intéressant votre question parce que lors de ma dernière Assemblée générale, donc en 2016, moi, je crois beaucoup à la technique de ce que j'appelle souvent le napron, d'être capable sur une page de résumer des choses compliquées. Donc, à chaque fois que je travaille avec des gens, un conseil d'administration, peu importe, même aujourd'hui, et que je prends un plan stratégique complexe, j'aime qu'on soit capable de résumer ça sur une page, sur les points importants et sur les grands objectifs qu'on s'est donnés et les résultats qu'on a atteints. Et donc, quand on a fait cette espèce de plan stratégique ou de vision stratégique 2009, et qu'on a projeté jusqu'à 2012-2013 et après ça jusqu'à 2016, nous avions des objectifs très précis. Précis sur le plan financier, des objectifs sur le plan de la relation clientèle, sur le plan de la croissance, sur le plan des initiatives, en tout cas, peu importe les détails techniques de ça. Et lors donc de cette dernière assemblée, j'avais cette espèce de petite page napperon ou au-delà de dire voici ce que nous allons faire et ce que nous avons fait, l'objectif qu'on s'était donné et le résultat qu'on a atteint collectivement. Et je dois dire qu'avec beaucoup de satisfaction, la presque totalité des objectifs qu'on s'était donnés collectivement, on les avait atteints, voire dépassés, ensemble. Alors, j'ai eu le sentiment par la suite que pour mon successeur, ben, ça lui permettait de repartir avec ça et de donner un autre élan et un autre momentum. Et j'avais aussi le sentiment qu'avec tous les gens qui m'entouraient, ben, on avait fait un assez bon travail et qu'on laissait finalement, comme on dit souvent, la maison en assez bon ordre pour la suite des choses.
Ouais, ben super. Donc, impressionnant, surtout tenant compte de justement le contexte dans lequel vous avez débuté votre mandat, donc sérieusement, félicitations.
Non, c'est sûr, et quand je regarde ça sur l'angle des chiffres, là, en termes de renforcement de notre base de capital, à ce moment-là, entre une position, je dirais, assez faible, on va le dire comme ça, lorsqu'on a commencé en 2008, si je prends la base de capital, on s'est retrouvé en 2015-2016 avec les classements internationaux, Bloomberg et compagnie, comme ayant en fait parmi les meilleures capitalisations en termes de qualité et de quantité, ce qui donnait finalement énormément de marge de manœuvre, tout en faisant finalement une croissance substantielle de nos revenus et de notre rentabilité, ce qui permettait aussi un renforcement des investissements. Alors, tout ça, c'est comme il faut comprendre la logique de tout ça. C'est sûr que lorsqu'on est capable de mettre une grande organisation, puis c'est vrai aujourd'hui aussi avec les conseils avec lesquels je travaille, je m'intéresse beaucoup aux dimensions de capacité de croissance, croissance organique, croissance non organique par des transactions, toute la dimension innovation qui en découle et relations clients, parce que la croissance organique est en grande partie liée à notre capacité d'avoir une relation, une expérience client extrêmement robuste qui a un effet d'entraînement, avec une capacité de croissance non organique par des acquisitions, par exemple, qui vient à un moment donné étendre le potentiel de l'entreprise sur d'autres marchés géographiques ou sur d'autres types de services. Et puis, la logique après ça de l'efficacité opérationnelle qui permet, par rapport à ses compétiteurs, de pouvoir être extrêmement productif, ce qui renforce la capacité de réinvestissement. Et d'ailleurs, ça, c'est un message. Je pense qu'au Canada, de façon générale, notre productivité n'est pas aussi forte quand on la compare à d'autres pays, et c'est en partie dû au fait que notre capacité d'investissement, soit-il en technologie, machinerie, etc., n'est peut-être pas aussi forte que ce que d'autres entreprises dans d'autres pays font. Et ça, ben, c'est un enjeu très important parce que la dimension de croissance sur nos marchés et sur d'autres marchés, il faut multiplier le nombre de grandes entreprises canadiennes qui ont cette capacité d'avoir une position de leadership au Canada, mais aussi plus globalement à l'échelle internationale. Et ça, ben, ça passe bien entendu par une excellente stratégie, une capacité de croissance durable, puis évidemment tout ce qui touche autour des personnes. Parce que vous avez beau avoir une belle stratégie sans les personnes qui vont être capables finalement de la faire vivre, de l'exécuter et de même la renforcer, ben, vous ne serez pas capable d'atteindre finalement cette vision des choses.
Ouais. Puis, pour notre segment guidance, quel conseil donneriez-vous à un jeune, une jeune qui est sur le point de graduer à l'université, justement dans le monde des affaires?
Beaucoup de choses que je pourrais dire. Mais je vais résumer ça en 5 points. Le premier, c'est vraiment d'avoir la passion d'apprendre. C'est impossible aujourd'hui. Moi, je continue d'apprendre. Je continue d'apprendre, même si j'ai pris ma retraite, puis présumément, j'ai fait toutes sortes de choses avant. On est dans un monde qui bouge, qui change. C'est impossible de tout savoir à tout moment. Donc, c'est beaucoup plus d'avoir une posture de dire « je vais continuer d'apprendre toute ma vie et j'ai le goût d'apprendre », numéro un. Et quand vous avez le goût d'apprendre, vous allez chercher conseil, vous poser des questions, vous vous engagez. Deuxième élément, la passion des personnes, parce que pour moi, au fond, à la fin de la journée, tout ce que j'ai pu apprendre l'a été avec des personnes qui m'ont transmis leur savoir, leur expérience et leur encouragement. Donc ça, c'est extrêmement important, y compris la dimension des personnes qui nous entourent, avec qui on va travailler en équipe. Parce que quand on travaille en équipe et qu'on bâtit une équipe, parler à tous les entrepreneurs, que ce soit les Alain Bouchard ou les Serge Godin, si je prends 2 exemples plus connus à Montréal, ben ce sont des gens qui ont commencé avec une petite entreprise et qui l'ont fait grandir et qui ont une grande fierté d'avoir tous ces collaborateurs à travers le monde. Donc, la dimension de la passion des gens. Et ensuite de ça, ce que je vais dire demain, 3 A sur lequel je vais vous laisser. Mes 3 A, c'est ambition, audace, action. C'est tout simple. D'abord, il faut avoir l'ambition. Il faut avoir l'ambition d'accomplir quelque chose. Donc, la première question, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut accomplir. Ce n'est pas juste d'aller chercher un poste ou d'aller chercher finalement un titre. Qu'est-ce qu'on va accomplir? C'est quoi vraiment l'ambition qu'on veut accomplir quand on s'engage auprès d'un projet, d'une entreprise ou d'une organisation? Deuxièmement, l'audace. Parce que vous avez beau avoir une ambition naturelle, je veux accomplir telle chose, je veux devenir entrepreneur, parfait. Mais avez-vous l'audace de prendre le risque qui va vous permettre de mettre en place cette idée que vous avez, cette ambition que vous avez? Et troisièmement, l'action, c'est tout simple parce que sans travail, sans action, vous avez beau avoir cette ambition, cette audace de prendre le risque. Ben, si vous n'avez pas le travail qui va avec, bien entendu, vous n'y arriverez pas. Et d'ailleurs, ça m'a pas mal intéressé de constater que la devise de l'Université McGill, c'est « Grandescunt ucta labore ». Et ça, je vais le dire en anglais, « By work, all things increase and grow ». Donc, la réalité, c'est que le travail bien fait est à la base, franchement, de beaucoup de succès qu'on peut avoir dans la vie. Et comme ma mère le disait, on récolte toujours ce que l'on sème.
Super. Bon, ben vous m'avez appris la devise de ma propre école que je n'étais pas au courant. Mais ça conclut notre épisode. Puis merci d'avoir été autant généreuse avec votre temps.
Un grand merci et à très bientôt, Mathieu. C'est le meilleur des succès à vous et à tous ceux qui vont nous écouter. Un grand merci. Merci. Marlène. Au revoir.
Merci d'avoir écouté notre épisode. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Instagram, Spotify ou Apple Podcasts. Bonne journée et à la prochaine. Le seul but de ce podcast est d'éduquer et d'informer nos auditeurs. Il ne remplace en aucun cas le conseil professionnel d'experts qualifiés. Ce podcast est fourni dans l'entente qu'il ne constitue pas un conseil financier ou autre professionnel. Nous vous encourageons plutôt à discuter de vos options de carrière ainsi que de vos engagements financiers avec des professionnels spécialisés en gestion de patrimoine, valeur mobilière et gestion d'actifs. Les informations, opinions et recommandations présentées dans ce podcast sont uniquement pour l'information générale.